sur la réforme de l'asile qui est en cours d'examen au Parlement. Au moment où je vous parle, le projet de loi de réforme de l'asile est en train d'être examiné par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Pourquoi, à la CAT, on n'est pas content de ce projet de loi, alors que le ministère de l'Intérieur a concerté, s'est concerté avec les associations l'année dernière, qu'il a annoncé ce projet de réforme comme un projet quasiment philanthropique, qui va raccourcir les délais pour les demandeurs d'asile, qui va faire que les procédures soient plus simples, soient plus rapides, soient moins angoissantes, et qui annonce qu'il va y avoir plus de droits pour tout le monde. On défend les droits des demandeurs d'asile. Pourquoi on n'est pas content? On nous demande souvent. C'est parce que on dénonce dans ce projet de loi une économie générale, une idée générale qui est de l'accélération et de la simplification, mais plutôt vers la sortie, si vous voyez ce que je veux dire. Pour une gestion des flux, pour une gestion chiffrée de l'asile, il faut dire les choses comme elles sont. Et on trouve que ce projet de loi, oui, bien sûr, à certains points, il y a des choses positives. Déjà, ce n'est pas des cadeaux, hein, ce n'est pas Noël, c'est les directives européennes qui imposaient à la France de mettre en œuvre ces mesures. Donc les mesures positives du projet de loi, il y en a. Ce n'est pas des inventions du ministère de l'Intérieur, ni des parlementaires. C'est issu des obligations européennes de la France. Et heureusement, il y a quelques textes européens qui mettent la barre un peu plus haut par rapport à ce que faisait la France sur certains points. Ce projet de loi, il est extrêmement technique. Quand on l'ouvre, il est indigeste, illisible, et même pour les parlementaires, il est absolument incompréhensible. Donc, c'est aussi un peu à dessein. Et nous, on pense, si je viens ici à Belfort, à la CAT, avec la CAT pour Racines et Chemins pour faire cette conférence, c'est parce qu'on pense au contraire que c'est des questions qui nous concernent tous, qui sont des questions d'humanité, de fraternité, de solidarité, et que c'est pas parce qu'il y a des mots techniques et complexes dans le projet de loi que nous on n'a pas à se sentir concernés. Donc ce que je voudrais faire avec vous, c'est décortiquer un peu ce projet de loi, parce qu'en fait il est compréhensible par tous. Si on prend le projet de loi sur la procédure d'asile qu'on va bientôt vivre en France, qui va bientôt exister en France, qui existe déjà un peu, mais qui est modifié par ce projet de loi. Imaginez qu'on met en place, en fait, une immense gare de triage. Un tri comme à la poste, hein, des tapis roulants qui font comme une gare de triage. Et les demandeurs d'asile, sont sur ce tapis et puis ils font leur petite chaîne procédurale. D'abord, ils passent par la préfecture. Après, ils vont déposer leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'OFPRA, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec le terme. Ils ont ensuite un entretien à l'OFPRA, donc en face à face, avec quelqu'un qui va les écouter, mais un peu rapidement, et avec un interprète, pour voir si on les croit, hein, s'ils ont des craintes fondées de persécution. Après, il va y avoir une décision de l'OFPRA qui dit oui ou non. Si c'est non, il va falloir faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Et là, des juges, et c'est la seule occasion pour les demandeurs d'asile d'être entendus par des juges vont statuer sur leur cas. Et ensuite, si ça n'a pas marché, je prends le pire des scénarios, hein, si ça n'a pas marché, ces personnes vont se retrouver sans papier. Et vont être à la merci d'une nouvelle décision de la préfecture qui sera une décision d'obligation de quitter le territoire français. Cette décision, c'est une décision d'éloignement. C'est-à-dire que si elle est mise à exécution, la personne peut être mise dans un avion et renvoyée dans son pays. Et ça, ça ouvre éventuellement droit à un nouveau recours, cette fois non pas devant la Cour nationale du droit d'asile, mais devant le tribunal administratif. Donc on a notre parcours là. Le projet de loi, il crée ou il augmente à des moments où ça existait déjà, des fourches sur ce parcours. Imaginez qu'à certains moments, ce même tapis roulant là, il se dédouble avec une partie qui continue son cours normalement et une partie de la fourche qui accélère. Et je vous laisse deviner, elle n'accélère pas vers le succès, elle accélère vers l'échec, cette fourche. Les mécanismes d'accélération qui sont prévus par le projet de loi de réforme de l'asile, c'est ça, c'est de multiplier les fourches et de multiplier et d'accélérer la cadence du tapis roulant à la fourche vers la sortie. En faisant ça, le ministère de l'Intérieur espère pousser plus vite vers la sortie les demandeurs d'asile qu'il aura préjugés moins crédibles. Donc on part du principe, je dis « on », là les pouvoirs publics, il y a un consensus qui est assez inquiétant sur cette question. Les pouvoirs publics sont tristement d'accord pour dire que le problème vient du nombre des demandeurs d'asile, comme si c'était de leur faute. C'est de leur faute s'ils sont trop nombreux aux yeux des pouvoirs publics. Et parmi eux, il y aurait trop de fraudes. Là aussi, c'est des fantasmes, c'est des préjugés. Il n'y a pas de fraudeurs en masse dans les demandeurs d'asile, pas plus que dans quoi que ce soit, d'ailleurs, pas plus que parmi les chômeurs ou parmi les bénéficiaires de l'allocation ou parmi même les parlementaires, j'ai envie de dire. Le taux de fraude, je pense qu'il est à peu près le même partout dans le monde, en fait. Voilà, donc c'est pas spécifique aux demandeurs d'asile. Mais on part du principe, à tort, que, en gros, on peut voir, en vous écoutant quelques mots, si vous avez de bonnes raisons de demander l'asile, ou si non, ça se voit tout de suite que vous êtes venu pour abuser du système. Que vous êtes crédible, ou vous êtes un vrai bon demandeur d'asile. On voit bien que vous avez vraiment souffert. On peut même en certifier, on peut même avoir un certificat médical qui dit que vous avez vraiment souffert, que vous avez vraiment été torturé. Donc vous êtes un vrai bon demandeur d'asile, on vous croit, tapis roulant, procédure normale. Et puis vous, on vous croit un peu moins. On pense d'emblée là que vous êtes moins crédible, que vous avez moins besoin de protection. Donc on fait des perdants. On pense que vous êtes plutôt parti pour la sortie. Donc plutôt que de vous donner plus de chances pour vous en sortir parce que vous étiez un peu mal parti, on vous retire encore des chances et on vous pousse à l'échec plus rapidement, comme ça au moins ça sera fini plus vite. C'est la logique assumée des pouvoirs publics sur ce projet de loi. C'est ce qu'a redit à peu près dans ses termes, là je les vulgarise, mais c'est ce qu'a dit sans embâge le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, hier devant la commission des lois, que certaines personnes ne méritent pas autant d'attention des pouvoirs publics que d'autres, et qu'on peut jauger quasiment au faciès, en tout cas en amont de l'examen de leur demande d'asile, donc sans aller regarder le fond de leur dossier, on peut dire comme ça qui a besoin de plus d'attention et qui n'en a pas besoin, donc on peut faire un peu plus vite fait malgré. Ça, c'est les mécanismes d'accélération de ce projet de loi, et c'est pour ça qu'on est révolté et qu'on veut sensibiliser l'opinion publique, parce que ça nous concerne tous. Des préjugés qui font penser qu'au faciès, on peut dire qui a droit à plus ou moins de droits, en fait, ça nous concerne tous. Alors, je pourrais vous donner quelques exemples techniques de ces mécanismes d'accélération. Il y a si on reprend cette image du tapis et des fourches, une des fourches, c'est le placement en procédure accélérée. Jusqu'à présent, ces procédures existaient déjà. Elles s'appellent les procédures prioritaires. C'est un très mauvais nom parce que ça laisse penser aux demandeurs d'asile qui sont en procédure prioritaire qu'ils ont vachement de chance, qu'ils ont un traitement VIP, que c'est super qu'on les traite en priorité. C'est pas ça du tout. C'est une procédure expéditive. C'est-à-dire que ça va plus vite avec moins de droits. Ces procédures existent déjà, elles vont être, à juste titre, rebaptisées procédures accélérées. Au moins, c'est un peu plus transparent. Ce sont des procédures accélérées. Sauf que leur champ va être élargi. Jusqu'à présent, il y avait environ un quart des demandeurs d'asile, on va dire 10%, un quart, qui étaient placés en procédure prioritaire. Là, on craint que ça puisse concerner jusqu'à un tiers des demandeurs d'asile. Ce qui se passera à ce moment-là de la fourche, c'est que le demandeur d'asile arrivera au guichet de la préfecture sans avocat, sans aide particulière. Hein. On vient d'arriver en France, on a tout laissé derrière soi. C'est vraiment l'image de la personne avec un baluchon. On voit arriver des gens qui n'ont vraiment rien, qui arrivent du pire, qui ne sont pas encore en état de parler, qui ne parlent pas un mot de français, bien entendu. Bon, ça dépend des pays, mais même quand ils viennent de pays qui étaient avant francophones, leur maîtrise du français n'est pas nécessairement excellente. En tout cas, ils sont intimidés. C'est des gens à qui la police et l'administration a souvent laissé d'assez mauvais souvenirs, quand même. Et là, on leur demande d'arriver au guichet de la préfecture. À Paris, ça s'appelle la préfecture de police de Paris. Donc ça fait peur. Face à des personnes en uniforme, avec des policiers, même si c'est des vigiles, ça fait peur. D'arriver au guichet sans assistance et sans interprète, et de débiter leur histoire. Et si le guichetier estime que leur histoire n'est pas assez vraisemblable, ou qu'ils n'ont pas donné assez de documents, ou qu'ils ne sont pas arrivés assez vite depuis leur arrivée en France, qu'ils ont perdu du temps, on pourra présumer qu'ils sont moins crédibles et les placer en procédure accélérée. Ça vise techniquement plusieurs cas, le cas des personnes qui ont fait une demande d'asile plus de 90 jours après leur arrivée en France. Nous, on voit concrètement, récemment, j'avais un jeune, il a 18 ans, il ne savait même pas que l'asile, ça existait, parce que c'est un concept de personne lettrée. Quand on fuit son pays, on sait qu'on doit fuir, mais on ne sait pas nécessairement qu'il existe une convention de Genève, voilà. Donc il ne savait pas que la procédure existait. Et il était tellement démuni, il n'avait même pas encore été repéré par des associations. Enfin, il avait passé 6 mois à dormir tout seul dans un square. Il avait largement dépassé les 90 jours. Est-ce que c'est de sa faute? Je ne pense pas. Si la loi a été votée telle qu'elle, et que ce même jeune homme de 18 ans se présentait à la préfecture pour demander l'asile, il serait d'emblée pénalisé pour le temps qu'il a perdu. Il y a aussi un cas de placement en procédure accélérée pour les personnes qui ne justifient pas d'être du visa ou du passeport avec lequel ils sont entrés. On parle d'asile. Vous imaginez, c'est le monde à l'envers. C'est un amalgame total entre des questions de contrôle migratoire et la protection qu'on doit aux personnes persécutées. Mais c'est écrit comme ça dans le projet de loi. Quelqu'un qui ne donne pas suffisamment d'indications par rapport à son identité et ses origines et sa nationalité, et qui n'a pas nécessairement les bons documents. Mais, et ça c'est ce que j'essaye de dire aux parlementaires aussi quand je les rencontre pour des rendez-vous de plaidoyer, ces personnes-là, si elles s'en sont sorties vivantes, souvent c'est parce qu'elles ont eu le bon réflexe, c'était de mentir. C'est des gens, c'est des survivants, c'est des gens qui ont sauvé leur peau. Et souvent, ils ont menti sur leur identité ou ils ont brûlé leurs papiers pour ne pas se faire repérer, pour arriver vivant jusqu'ici. Et du jour au lendemain, à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui en plus porte un uniforme et qui fait peur, il faudrait tout d'un coup qu'ils disent toute la vérité en toute confiance alors qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit et qu'il n'y a pas d'interprète. Ça, c'est un cas, par exemple, où des gens risquent d'être placés en procédure accélérée, et j'insiste, ça veut dire moins de droits, pour des cas qui concrètement sont injustes. Il n'y a pas de fondement en fait pour cette pénalisation. Une fois qu'on est placé en procédure accélérée, ça va plus vite. Alors encore hier devant la commission des lois, le ministre de l'Intérieur disait ça va juste plus vite, c'est pas moins de droits. Et si on fait ces conférences, c'est pour montrer que comme le dicton, le temps c'est de l'argent, en matière d'asile, le temps, c'est des droits. Moins on a de temps pour se poser, pour raconter, pour expliquer, moins on a de droits et moins on a de chances de réussir à convaincre qu'on a subi, qu'on risque de subir des persécutions en raison d'engagements politiques, religieux, etc., qui peuvent être très complexes et très imbriqués. Donc retirer du temps, c'est comme retirer des cartouches ou des chances de succès à un demandeur d'asile. On a moins de temps pour déposer le formulaire de demande d'asile à l'OFPRA, et si on échoue, on a moins de temps pour saisir un juge du recours. Et ce juge-là, quand on est en procédure accélérée, on n'a pas droit à un panel de 3 juges qui vont être éclairés par l'avis d'un rapporteur, un peu comme un procureur, si vous voulez, quelqu'un qui éclaire le tribunal. On va être face à un juge unique, donc un juge tout seul, qui va avoir plus d'affaires à juger parce qu'il va être dans une chambre de la cour spécifique pour les procédures accélérées. Donc non seulement il sera tout seul, mais sa pile de dossiers risque d'être un peu plus grosse que celle de ses collègues, qui sont 3 et qui peuvent se partager le travail. C'est pas un procès d'intention au juge de l'asile, mais si à eux aussi on enlève des moyens de bien juger, eh ben ils vont juger moins bien, parce que c'est pas des surhommes. Et que si on leur met une pile de dossiers comme ça, tout seul, et des dossiers extrêmement complexes, hein, pour chaque dossier, il faut connaître la situation géopolitique, il faut connaître parfois des subtilités régionales extrêmement fines et pointues. Il faut parfois être capable de saisir les nuances culturelles d'une région à l'autre du pays pour savoir, pour sentir si l'interprète est fiable ou pas, pour essayer de décortiquer d'un mot à l'autre, sentir, voilà, pour se laisser convaincre ou pas. Ça prend du temps et ça demande de la sérénité. Et si ça doit être fait à la chaîne, même le meilleur des juges, il finit par craquer, quoi, par lâcher l'affaire et puis par juger moins bien, et puis parce qu'il a moins de temps. Et les délais pour être entendu par le juge et les délais pour les avocats pour travailler sur le dossier et pour le juge pour étudier le dossier seront également restreints pendant cette procédure accélérée par rapport aux autres. Ça va être 5 mois pour travailler sur le dossier avant la date d'audience pour les procédures normales et seulement 5 semaines pour les procédures accélérées. Pour vous donner une idée concrète, moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir, qui a eu une décision de rejet de l'OFPRA, généralement, les gens arrivent, ils l'ont reçu il y a à peu près 1 semaine. Le temps qu'ils se retournent, qu'ils comprennent à peu près à quoi ça ressemble. Que quelqu'un leur lise, qu'ils sachent ce que c'est, parce que c'est en français. Après, il faut qu'ils réussissent à avoir rendez-vous avec nous. On n'a pas, c'est pas de mauvaise grâce, mais on a 2 jours de permanence dans la semaine. Donc, s'ils m'appellent un jeudi, il faudra attendre jusqu'au lundi ou au jeudi suivant. On essaye de faire au mieux, mais on fait ce qu'on peut. Ils vont m'apporter la décision. Je vais faire tout ce que je peux pour trouver un avocat ou une avocate qui accepte de prendre le dossier à l'aide juridictionnelle. Mais là, j'ai eu le cas il y a encore 3 jours avec une dame géorgienne. Elle ne parle pas un mot de français. Elle ne parle pas très bien russe. Elle est policière. Enfin, elle était policière en Géorgie. C'est une femme. Elle a subi des choses très difficiles. Il faudrait une interprète en géorgien. Il faudrait une interprète femme par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle ne va pas en parler facilement devant un homme, encore moins un homme géorgien. Et le temps de dégoter l'interprète, un credo qui marche pour l'avocate, parce que l'avocate, elle est juridictionnelle, sur son cachet d'aide juridictionnelle, elle ne peut pas payer l'interprète. On ne gagne pas assez à l'aide juridictionnelle quand on est avocat, défendre aux frais de l'État. On ne gagne pas assez pour pouvoir payer le cachet de l'interprète. Donc je dégote une date chez nous, dans nos bureaux. Je paye l'interprète, j'essaye de trouver une interprète en géorgien, femme, qui soit disponible quand moi je suis disponible, l'avocate est disponible, et notre victime, notre demandeuse d'asile, est disponible. Et finalement, on arrive à se retrouver. Ça a pris peut-être 3 semaines. Sur un délai de 5 semaines pour étudier le dossier, ben en fait, on va à l'audience la semaine prochaine. On se sera vu une fois, tous ensemble. Voilà ce que c'est concrètement 5 semaines. Ça veut dire qu'on voit son avocat une fois au mieux. C'est une vraie pénalisation. C'est pas vrai que ça va juste plus vite, mais que c'est les mêmes droits. C'est là qu'on voit le temps, à quel point c'est crucial. Ça, c'est vraiment un focus quand on va vous parler du projet de loi et qu'on vous dit « Ah ben non, c'est très compliqué, c'est très technique, on peut pas comprendre. » On peut très bien comprendre ça. La procédure accélérée, elle est tout à fait compréhensible. Elle est tout à fait lisible. Et elle est à la portée de tous pour nous la remettre en cause et dire c'est pas juste. Ces préjugés qui font que certaines personnes sont privées de droits par rapport à d'autres, avant même qu'on ait examiné le fond de leur dossier, on est tous capables de le comprendre et de dire ça. Une autre invention du projet de loi, là aussi ça peut paraître extrêmement technique, mais en fait c'est très compréhensible, tristement compréhensible, c'est la création de deux types de décisions que l'OFPRA pourra prendre pour, là aussi, accélérer la sortie. Il y a les décisions d'irrecevabilité. Les décisions d'irrecevabilité, alors c'est un terme là qui fait un peu peur, c'est un terme juridique, ça veut dire opposer une fin de non-recevoir à un demandeur d'asile, dans ce cas-là. Ça veut dire, vous venez avec une demande, non, je ne la lirai même pas. Non, je n'examinerai pas votre dossier. C'est pas pareil qu'un rejet. Un rejet, c'est j'examine votre dossier, bon alors, peut-être pas suffisamment en profondeur, mais au moins, je le lis en entier, je vous écoute, je vous donne un entretien, je ne vous ai pas cru, pas toujours pour les bonnes raisons, hein, mais au moins, j'ai fait au moins semblant de faire le travail et à la fin, j'ai dit non. L'irrecevabilité, c'est non, monsieur, je ne lirai pas votre dossier. Pourquoi ? Les décisions d'irrecevabilité sont créées dans ce projet de loi pour écarter les personnes, en gros, qui ont déjà échoué et dont on estime qu'elles abusent du système en redemandant l'asile une nouvelle fois. C'est les cas de réexamen. On dit, si vous avez déjà échoué, que vous avez fait une première demande d'asile et que vous redemandez l'asile, c'est que vous fraudez, c'est que vous faites tout pour vous accrocher, que c'est l'immigration clandestine masquée, que vous n'êtes pas un vrai demandeur d'asile, vous faites feu de tout bois, vous essayez encore éternellement, mais vous n'êtes pas un vrai demandeur d'asile.
Pardon, dans quel cas on peut redemander l'asile ?
Alors, très bonne question. On peut redemander l'asile, ça s'appelle une demande de réexamen, si on arrive à invoquer des éléments nouveaux dans le dossier. Des éléments nouveaux, ça peut être de plusieurs types. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans le pays d'origine, depuis la dernière fois où on a été jugé sur l'asile. Par exemple, depuis que je suis passée devant la Cour nationale du droit d'asile et que j'ai été rejetée, entre-temps, la police est retournée chez mes parents et a cherché dans tout l'appartement, a retourné à la maison pour me retrouver. Ça, c'est un fait qui est nouveau et ça réactive mes craintes de persécution, ça montre qu'elles sont toujours actuelles. Ça, c'est quand c'est directement lié à la première demande. On va dire que c'est un élément qui ravive la première demande. Mais concrètement, il peut se passer aussi énormément de choses. Regardez le Centrafrique. Quelqu'un qui, il y a 5-6 ans, avait fait une demande qui est centrafricain et qui aurait été rejetée, eh ben, en 2013, il aurait très bien pu refaire une demande sur la base d'éléments nouveaux. Ce n'est pas pour autant que c'est un fraudeur. La situation a complètement changé. La même chose vaut pour le Mali. On a des demandeurs d'asile syriens qui viennent nous voir à la CAF. On a par exemple un gynécologue qui est venu nous voir. Il avait un titre de séjour, hein, il était médecin en France, dans un hôpital, il était gynécologue. Sauf que maintenant, avec les changements, non seulement il ne peut pas retourner en Syrie, mais le fait qu'il ait été gynécologue le met directement en danger. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait parlé à des congrès, qui s'était exposé. Est-ce que parce qu'il se réveille trop tard, entre guillemets, c'est un fraudeur ? Non, c'est un élément nouveau qui intervient, c'est un changement de situation. Parfois, c'est un changement aussi de situation dans le droit. Parfois, c'est la ligne qui bouge et pas la personne. Par exemple, les victimes d'excision, ou les potentielles victimes d'excision, avant, en France, étaient moins bien protégées que maintenant. C'est un peu compliqué, mais en gros, la jurisprudence disait qu'on pouvait leur apporter qu'une protection temporaire, mais que les petites filles qui risquaient l'excision dans leur pays de nationalité, dans le pays d'origine de leurs parents, mettons le Mali ou la Guinée, ne pouvaient bénéficier que d'une protection temporaire et pas du statut de réfugié. Sauf que depuis, le Conseil d'État a reconnu que ce n'était pas juste et que si vraiment elles craignaient l'excision, elles faisaient partie d'un groupe social et donc elles pouvaient avoir droit au statut de réfugié, c'est-à-dire une pleine protection pérenne, pas quelque chose de temporaire, mais quelque chose de définitif comme protection. Ben dans ce cas-là, ça c'est un élément nouveau, mais de nature juridique. Et ça fait une demande de réexamen, de dire le droit a changé. Mon droit à la protection a changé. Donc je redemande. Toutes ces personnes-là, si la loi était votée en l'état, et c'est ce qu'on craint, risquent de se voir opposer une fin de non-recevoir. Pour une raison purement numérique. Si c'est votre demande numéro 1, peut-être vous irez en procédure normale, peut-être en procédure accélérée. Mais si c'est votre demande numéro 2, ou parfois numéro 3, c'est irrecevable. Nous ne regarderons pas le dossier. Sauf, et les conditions pour éviter cette fin de non-recevoir, sauf si vous nous montrez qu'avec des preuves à l'appui, des preuves écrites, que vous avez des nouveaux éléments. Et avec des conditions impossibles quasiment à remplir. Et la preuve écrite, c'est pas légal en droit d'asile. La Convention de Genève, c'est une convention qui dit que quand on croit la personne, c'est suffisant. On n'a pas le droit d'exiger d'un réfugié qu'il arrive avec une valise de preuves à charge qu'il aurait emporté de son pays. C'est pour ça que c'est pas du droit écrit. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander de la preuve écrite et que le temps qu'on laisse aux personnes pour raconter est fondamental. Dans ce même esprit, l'OFPRA, toujours, aura le droit, aura la possibilité de radier des demandeurs d'asile. Ça s'appelle la clôture, c'est des décisions de clôture, mais en fait, c'est des radiations. Donc, l'OFPRA pourrait, si c'est voté comme ça, décider qu'un demandeur d'asile n'a pas été suffisamment coopérant, qu'il n'a pas apporté suffisamment d'éléments, qu'il n'a pas assez répondu aux convocations, qu'il a manqué un rendez-vous. Bon, quand on voit les difficultés à se déplacer ou à comprendre même une convocation, ça ne fait pas de vous un fraudeur si vous n'avez pas compris la date. Hein. Mais sur la base de ce genre d'éléments, ou si vous n'êtes pas resté suffisamment fixe et cantonné sur votre lieu d'hébergement, parce qu'il y a aussi de la surveillance sur les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile, si vous n'avez pas obéi à vos obligations, eh bien, l'OFPRA pourra vous radier de votre demande d'asile et dire, voilà, nous c'est fini, on arrête les frais. Il y a dans ce projet de loi une logique de surveillance et de sanction qui n'a pas sa place. Et c'est aussi pour ça qu'on le dénonce. L'asile, c'est, comme son nom l'indique, c'est offrir refuge à une personne qui en a besoin. Et même le mot « demandeur d'asile », il n'est pas vraiment juste. On devrait parler de réfugié. Parce que parler de demandeur d'asile, ça met les gens en situation de demande. Comme s'ils avaient l'audace, comme si c'était des gens qui réclament et qui profitent d'un système. Et alors, du coup, j'entendais aussi, là, dans les débats parlementaires, des parlementaires dire « Oui, on parle du droit d'asile, on parle des droits, mais on ne parle pas assez des devoirs. » Mais ce n'est pas la question. Le droit d'asile, c'est notre société qui a un devoir. C'est le devoir de protéger. C'est ce à quoi se sont engagés tous les signataires de la Convention de Genève au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, cette idée de « Ah bon, vous demandez ça, mais en échange, vous devez faire ça », elle est un peu pernicieuse dans ce projet de loi. Et elle conduit à des obligations, en gros à la carotte et au bâton, dans le projet de loi. On vous donne un logement en centre d'accueil des demandeurs d'asile, d'accord, mais vous avez comme devoir d'y rester cantonné, pour ne pas dire enfermé. Et si vous manquez à ce devoir-là, on peut vous sanctionner en vous retirant les allocations auxquelles vous aviez droit ou en radiant votre dossier, etc., etc. Donc cette logique-là, elle n'a pas sa place dans l'asile. Je pourrais aussi vous parler, je ne sais pas trop où on en est dans le timing, je pourrais aussi vous parler, et là je pense que c'est intéressant de s'emparer de discours en apparence très techniques, je pourrais vous parler du recours suspensif et du recours effectif. C'est un des grands aspects, et c'est un des grands points de la communication des pouvoirs publics sur ce projet de loi, qui dit c'est une énorme avancée. Nous donnons à tous les demandeurs d'asile, sans exception, un droit au recours suspensif. Qu'est-ce que le recours suspensif ? Qu'est-ce que ça veut dire, un recours suspensif ? Ça veut dire que quand votre demande d'asile a été rejetée par l'administration, vous avez le droit qu'on attende que le juge ait tranché avant de vous renvoyer dans votre pays. Sinon, passez-moi l'expression, mais ça vous fait une belle jambe. Vous pouvez faire un recours, mais on n'attend pas que le juge ait statué. C'est le sens de l'appel du mois de la CAT, on en a plusieurs sur la table là, où on appelle à écrire au président de la République pour demander que les recours contre les rejets d'asile soient suspensifs, que l'administration ne puisse pas décider seule et que si un recours a été fait devant le juge, on attende l'issue du procès, parce que sinon c'est prendre le juge aussi pour un idiot que de ne pas attendre qu'il ait tranché. Suspensif, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on suspend l'exécution, la mise en œuvre de la décision de rejet, de la décision négative, tant que le juge n'a pas tranché. La France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à tout le monde un droit au recours effectif. Le droit au recours effectif, ça veut dire que si on vous donne la possibilité de faire un recours contre une décision, cette possibilité ne doit pas être purement formelle. On doit vous donner les moyens de vous défendre et de faire ce recours. Et la France a été condamnée en 2012 parce que dans le cas des demandeurs d'asile en procédure accélérée, ce recours, selon la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, n'était pas effectif parce qu'il n'était pas suspensif. Et là, ça devient intéressant. Strasbourg a dit à la France, vous ne donnez pas aux demandeurs d'asile en procédure accélérée les moyens de réellement se défendre contre une décision négative. Parce que vous n'attendez pas l'avis du juge avant de les mettre potentiellement dans l'avion. Mais la Cour européenne des droits de l'homme a aussi dit, quand bien même vous attendriez formellement l'avis du juge, vous feriez un recours suspensif, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que ça vous fait une belle jambe qu'on attende le juge, si en même temps vous n'avez pas d'avocat, pas d'interprète, que vous avez 48 heures pour faire un recours en français au greffe du tribunal administratif, envoyé par fax, alors que le fax est dans le local de la police aux frontières, auquel vous n'avez pas accès parce que vous êtes dans votre cellule, dans votre chambre, en centre de rétention. Voilà, c'est suspensif, dans ce cas-là. Oui, on attendra l'avis du juge, mais il y a tellement d'entraves matérielles et vous avez tellement de difficultés à faire un recours qui ait des chances d'aboutir que votre droit au recours n'est pas nécessairement effectif. Et là-dessus, le gouvernement a fait un petit glissement. Ils ont pris le problème par le petit bout de la lorgnette. Donc dans la réforme, ils disent voilà, on va obéir à Strasbourg, on va faire un recours suspensif pour tout le monde. Et nous, on répond, et preuve à l'appui, hein, c'est pas juste parce qu'on est des enragés, pas du tout, c'est parce qu'on voit juridiquement que c'est faux. On répond deux choses. On répond d'une part, c'est pas vrai, parce que tous les demandeurs d'asile n'auront toujours pas droit à un recours suspensif. Notamment, toutes les personnes en rétention ou en zone d'attente, privées de liberté, en Outre-mer, à Mayotte, en Guyane, dans les Dom-Tom, n'auront pas droit à un recours suspensif. Donc pour elles, on n'attendra toujours pas l'avis du juge. Il suffira d'une décision de l'administration pour les mettre dans l'avion ou dans le bateau. Ça sera aussi le cas de tous les demandeurs d'asile qui auront été victimes de ces fameuses décisions d'irrecevabilité ou de clôture, de radiation dont je viens de parler. Donc ces personnes-là n'auront pas de droit au recours suspensif. Le recours suspensif, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Donc même ça, ça n'est pas garanti à tout le monde. Mais en plus de ça, les demandeurs d'asile auxquels généreusement le projet de loi accorde désormais un droit au recours suspensif, ce minimum syndical, nous on dit c'est bien, mais la France pourrait faire un peu mieux tant qu'à faire. On peut même se payer le luxe de respecter les droits dans leur ensemble plutôt qu'un petit bout de ces droits-là. Et concrètement, encore trop, beaucoup trop de demandeurs d'asile en France n'auront pas la possibilité effective de se défendre. Oui, théoriquement, on attendra l'avis du juge. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui auront un délai de recours de 48 heures alors qu'ils sont dans des conditions de privation de liberté où il n'y a pas d'interprète et où il n'y a pas d'avocat. Il y a des gens qui auront un délai de recours de 7 jours. 7 jours, concrètement, ça ne vous laisse même pas le temps d'arriver jusqu'à nous, la CAT. Alors imaginez pour arriver jusqu'au tribunal. Quand on reçoit... Enfin, je ne sais pas, j'essaye d'expliquer ça, mais moi j'ai beau être avocate, quand je reçois des papiers du Trésor public ou de ma caisse d'assurance maladie, et que c'est écrit en tout petit, et que j'y comprends rien, et que c'était un recommandé, et que j'ai pas eu le temps d'aller à la poste, et que je le retire le pli, et que je l'ouvre le soir et que je suis fatiguée, si c'est écrit au dos en tout petit que j'avais 7 jours pour contester une décision, il y a quand même une chance sur deux pour que je passe à côté. Et je suis francophone et avocate. Donc imaginez des personnes tchétchènes dans un foyer ou logées dans un hôtel extrêmement précaire avec une domiciliation postale à l'autre bout de la ville où on aura tamponné pour eux le recommandé, donc ça vaut notification même s'ils n'ont pas le pli entre les mains, qui au bout de 3-4 jours récupèrent leur courrier parce que ce n'était pas le jour de courrier à la domiciliation postale, voient un document qu'ils ne comprennent pas, qui est en français, et il leur reste quoi? C'est peut-être un vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, c'est le dernier jour, c'est trop tard pour faire le recours. 7 jours, concrètement, ça veut dire ça. Donc oui, ça sera peut-être théoriquement suspensif, mais à nos yeux, ça ne sera toujours pas effectif. C'est là qu'on voit que le temps, c'est des droits. Donc quand on retire du temps, on retire des droits, on retire de l'effectivité des droits. Donc, quand on parle de recours suspensif effectif, ce n'est pas des gros mots. On peut tous répondre, oui, c'est bien d'attendre l'avis du juge, mais il faut donner à tous les moyens de saisir un juge de manière efficace et d'avoir le temps d'exposer à ce juge son dossier pour que le juge comprenne et pour avoir une chance d'avoir gain de cause. C'est ça le droit au recours effectif. Voilà. Ça, c'est des aspects techniques de la réforme que je voulais rapidement brosser avec vous. Après, je pense qu'il y a le temps de questions et de réponses si vous avez d'autres questions. Mais je voulais essayer de vous montrer à quel point, quand on voit le vécu des personnes qui se sont déjà battues, hein, c'est des héros les personnes qu'on représente et qu'on aide. Quand ils arrivent ici, souvent, ils ont déjà vécu le pire. Il faut un courage, mais énorme, pour tout fuir. C'est pas un choix de partir. L'exil, l'asile, c'est pas un choix, c'est pas de l'immigration, c'est pas quelque chose qui peut être dissuadé par une loi ou par un traitement plus sévère ou par des sanctions ici en France. C'est des gens qui un jour, n'ont pas pu rentrer chez eux et parfois, concrètement, ne sont pas rentrés chez eux et ont ensuite essayé de fuir leur pays avec plein d'étapes. L'exil, c'est pas juste on prend un avion, on arrive en France. C'est plein de micro-étapes. Et à chaque étape, on se cache à nouveau et on cherche un nouveau passeur et on cherche de l'argent pour un petit bout de voyage. Et à chaque fois, c'est douloureux. Et donc, les personnes qu'on défend, c'est déjà des... Enfin, vraiment, c'est des survivants. Donc, quand on voit... concrètement, que parfois ça se joue à un ticket de métro, que parfois ça se joue à est-ce que j'ai encore des unités dans mon téléphone portable, que parfois ça se joue au mutisme parce qu'on n'est pas en état de raconter des choses trop douloureuses, et que de l'autre côté on a un projet de loi qui traite les demandeurs d'asile comme des numéros et qui fait comme si on pouvait appuyer sur un bouton et que les personnes étaient des machines et qu'elles allaient débiter ou recracher un récit tout fait bien crédible et bien emballé. Au nom de l'humain, c'est pour ça, à la CAT, qu'on s'est mobilisé sur ce projet de loi et qu'on voulait en parler ici. Merci.